Nous avons tous entendu l'adage « le client est roi ». ROI, trois lettres qui représentent le Graal de toute entreprise. Alors faisons entrer dans l'arène les troubadours, jongleurs et ménestrels des plus belles marques B2B. Ils sont Customer Experience, Sales et Marketing et vous révèlent les secrets d'une expérience client sublimée et créatrice de valeur. Je suis Léonie Deverdelan, fondatrice de Jeudi Merci, et je vous souhaite la bienvenue dans Les Fous du Roi. Aujourd'hui, on reçoit Gabrielle Delamaze, Head of Customer Success chez Pledzi. Alors si vous ne connaissez pas Pledzi, Gabrielle va vous expliquer en 30 secondes ce que fait Pledzi.
Pledzi, c'est un outil de marketing digital qui permet notamment de mettre en place une stratégie d'inbound marketing. Et donc l'objectif, c'est d'identifier quels sont tes leads, les nurturer et les envoyer à tes équipes sales au bon moment.
Et au-delà de l'outil Pledzi, en plus c'est une équipe ultra sympa, dynamique et très présente auprès de leurs clients. À titre personnel, j'aime énormément la façon de communiquer de Pledzi. Qu'est-ce qui fait la sauce Pledzi selon toi ?
Je pense que quand tu parles de sauce, on parle pas mal de culture finalement. En interne, on a une culture qui est très forte, qui est basée essentiellement sur les liens qu'on a créés. Alors ça peut paraître un peu bateau et un peu très start-up, mais en réalité, on a surtout une équipe qui est là depuis le démarrage. On était 5 au démarrage, on est 5 à avoir fêté nos 5 ans chez Pledzi. Et tout le monde apprécie d'être là et surtout partage des valeurs très fortes en termes d'équilibre pro-vie perso, en termes d'attention aux autres. On essaye de plus parler de bienveillance, on a un peu le sentiment que c'est galvaudé. En revanche, je crois qu'on tire le meilleur les uns des autres et on estime beaucoup le job que... Enfin, moi, j'ai beaucoup d'admiration, aussi bien pour les équipes dev, sales ou market que pour mon équipe. Et je pense que tout ça fait qu'on a envie de continuer à bosser ensemble.
Et donc, dans cette équipe dans laquelle toi, tu es depuis 5 ans, aujourd'hui, vous êtes 10 customer success. Quand tu es arrivée il y a 5 ans...
J'étais seule.
Tu étais seule. Et ce que tu m'as dit, c'est que tu ne savais pas ce que c'était que le métier de customer success.
Ouais. Ouais, j'ai commencé moi par faire de l'événementiel pendant 7 ans. Donc, il y a un gros lien autour de la relation client et le chouchoutage de tes clients, puisque dans l'événementiel, si ça marche pas avec un client, il revient pas la fois suivante en fait, c'est assez bateau. Mais c'était très à la mano, très fichier Excel et papier crayon, donc très très loin du monde du SaaS. Donc, effectivement, quand j'ai démarré, je comprenais absolument rien de ce qui était attendu de moi, mis à part qu'on attendait d'avoir des clients satisfaits. Et donc, j'ai commencé à me mettre en quatre et essayer de comprendre ce qu'ils attendaient pour être satisfaits.
Et si des personnes nous écoutent et qui sont dans cette situation d'être le premier customer success ou la première customer success d'une entreprise, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil ?
Je pense que le premier conseil que m'ont donné mes associés, c'était d'abord d'aller parler à nos clients. Donc, j'ai contacté chacun d'entre eux pour lui demander ce qu'ils faisaient, ce qu'ils attendaient de l'outil, comment ils l'utilisaient à l'heure actuelle, et puis comprendre également là où étaient leurs frictions, les freins, ce que l'outil ne faisait pas et dont ils auraient besoin. Donc, première chose, parler à tes clients. Et deuxième chose, donc parler d'un point de vue stratégique à tes clients. Et deuxième chose, parler d'un point de vue technique à tes clients. Moi, j'ai passé, je pense, mes 3 premiers mois à 100% sur le chat, à répondre à toutes les questions qu'il y avait sur l'utilisation du produit. Et donc, j'ai fini par me former très, très bien au produit, puisque, en fait, un customer success, c'est la colonne vertébrale d'une entreprise. Il touche à tout, il touche au market, parce que toutes les actions marketing ont un impact sur les clients. Il touche avec les sales, parce qu'il va du coup donner des billes aux sales pour pouvoir vendre. Il touche aux devs, parce qu'il faut faire évoluer le produit, régler des bugs. Donc, ils sont des experts du produit. Et du coup, un customer success, il doit commencer par maîtriser son produit de A à Z.
Et t'as mis combien de temps à maîtriser ce produit qui est quand même très, très spécifique et très complet ?
Ouais, il est très complet, t'as raison. Et j'ai mis pas mal de temps à bien comprendre les ressorts. Et donc, j'ai beaucoup écouté aussi mes associés qui, du coup, pendant ce temps-là, onboardaient de nouveaux clients. Et à les écouter onboarder, j'ai rien compris. Parce qu'en fait, ils onboardaient chacun de leurs clients différemment pour coller au maximum aux attentes et à ce qu'ils avaient perçu des attentes de ces clients. Donc, gros enjeu, mais quand on voit un problème sous 12 facettes différentes, on finit par comprendre comment le résoudre de 12 manières différentes.
Et du coup, ces onboardings qui étaient tous différents, aujourd'hui, tu as réussi à les systématiser, à les faire rentrer plus dans des boîtes ou c'est toujours au cas par cas ?
Non, c'est plus au cas par cas. On a fait un gros, gros boulot dessus. Alors, c'est vraiment un sujet qu'on rechallenge, je pense, entre tous les 6 mois et tous les ans. Moi, j'avais tenté et j'avais créé un cadre. Et puis, on a embauché quelqu'un qui était spécialiste de l'onboarding, une fille super, qui, du coup, a commencé, elle, à automatiser beaucoup de choses et à cadrer de manière beaucoup plus précise, à avoir une approche assez produit. Et puis ensuite, on a recruté une équipe onboarding qui fait évoluer cet onboarding, donc qui a continué à automatiser en créant de la vidéo, en créant des outils pour permettre de suivre notre client pas à pas. Et là, on est en train de passer encore une nouvelle étape où on va travailler sur des onboarding avec beaucoup plus d'automatisation, avec beaucoup plus d'informations et d'éducation pour nos clients en amont de l'onboarding et ensuite un suivi en fonction de la maturité de notre client. Donc finalement, beaucoup plus personnalisé.
Ok, ouais, parce que donc, dans le podcast, on parle pas mal de ROI. L'onboarding, c'est un gros sujet parce qu'un onboarding raté, c'est un client qui met plus de temps à prendre en main le produit, mais c'est aussi un sujet qui peut coûter cher en temps humain d'accompagnement. Est-ce que aujourd'hui, dans toutes les évolutions, le recrutement que vous avez fait sur l'onboarding, vous voyez une vraie différence en termes de temps nécessaire pour onboarder vos nouveaux clients ?
D'abord, on a rationalisé ça. Il y a encore de l'évolution parce que notre rationalisation, elle est faite dans les grandes lignes, mais on a une idée du nombre de clients qui peut être suivi par chacun de nos onboarders. Dans termes de recrutement, on a recruté en interne. On a eu un de nos collaborateurs qui était dans la partie care, support, qui est devenu onboarder. Et en fait, c'est canon parce que du coup, il a une vision assez technique également et beaucoup de pédagogie parce qu'après avoir passé 2 ans sur le chat, il sait comment expliquer les choses à ses clients. Et on a un autre onboarder qui, lui, est très intéressé par la partie produit. Donc, le mix des deux, c'est vraiment un mix chouette. Ces compétences se multiplient et leur permet d'avoir une nouvelle vision sur l'onboarding. Et je te rejoins, il faut absolument qu'un onboarding, ça se passe bien. Chez nous, on table beaucoup de choses sur la relation qu'on va créer dès l'onboarding. Pour ça, un gros enjeu d'un onboarder, c'est d'éduquer le client à ce qu'est l'inbound marketing. On est dans des sujets qui sont beaucoup démocratisés hein, en 5 ans. Quand on parlait d'inbound il y a 5 ans, je pense que les gens nous regardaient en nous demandant quel était ce mot, cet énième anglicisme un peu bâtard. Et aujourd'hui, c'est un terme qui fait partie des usages. En revanche, les techniques pour faire une bonne stratégie d'inbound en place, elles, en revanche, elles sont pas encore démocratisées. Et donc, on a beaucoup de compétences à transmettre.
Et donc, vos onboarders sont aussi finalement des consultants, des formateurs en inbound ou c'est...
Alors, tu vois, là, on est sur une période de change sur ce sujet-là. Jusqu'ici, ce n'était pas forcément le cas. On avait beaucoup cadré les choses. Et plus le temps passe, plus on a décidé de mettre l'accent sur la valeur marketing qu'on peut tirer de l'outil, ce qui semblait être une évidence. Et en fait, plus une équipe grossit, moins c'est une évidence, plus il faut rappeler les basiques. Et donc, on est en train de... je te parlais tout à l'heure de travailler autour d'une segmentation sur de la maturité en termes de compétences marketing de nos clients. Et donc, nos onboarders vont suivre également cette même progression. Et donc là, on est dans un cadre de formation marketing très poussé.
D'accord. Donc, en fait, en devenant client Pledzi, on est aussi engagé dans un programme de formation transmis par l'onboarder puis le customer success ?
Ouais, exactement. Ça passera pas sur votre budget formation, on le cadre pas comme ça. En revanche, notre gros enjeu, c'est de se dire que notre objectif à terme, c'est d'avoir des clients qui soient satisfaits. Et sans être naïve ou bisounours, moi, je voudrais des clients heureux. Et alors, pour t'expliquer le raisonnement, un client heureux, c'est quelqu'un qui considère qu'il a récupéré, gagné le maximum grâce à son outil. Donc, un marketeur heureux, ça veut dire qu'il a généré un maximum de leads qui étaient des leads intéressants, si je prends ma toute petite partie. Et donc, pour générer ce maximum de leads intéressants, il a eu besoin de monter en compétences. Un marketeur, il y a des techniques qui évoluent non-stop, surtout sur les sujets web, ça... Enfin, je pense que tu es mieux placé que moi pour le savoir. Ce qui était vrai l'année dernière, elle n'est plus tout à fait cette année. Donc, il a besoin d'avoir des gens face à lui qui lui transmettent un maximum d'infos. Du coup, notre objectif, il est d'apporter ces informations à tout moment. Et ça, c'est un truc qui... c'est évidemment une qualité de l'équipe Customer Success, mais on est, du coup, on est une équipe qui se complète très bien avec l'équipe marketing, qui va nous créer des contenus qui vont permettre de répondre à toutes ces questions, donc par le biais de webinars où ils invitent quasiment systématiquement nos clients, par le biais d'articles de blog. Et tu vois, on va automatiquement abonner nos clients à la newsletter lorsqu'ils démarrent avec nous. Et je pense qu'ils gagnent beaucoup à apprendre avec cette newsletter.
Votre newsletter qui s'appelle la News Better,
ouais,
c'est ça ?
Exactement.
Parce qu'elle est mieux qu'une newsletter classique.
Ouais. Et donc, on a constaté que certains de nos clients reprenaient certaines parties parce que chez eux, ça marche bien et donc ils sont satisfaits, ils utilisent.
Vous devenez une source d'inspiration.
Ouais.
Et en parlant de formation de vos clients, la meilleure façon de former des clients, c'est de laisser vos clients actuels montrer ou
clairement
expliquer comment ils tirent de la valeur de votre produit.
Ouais.
Comment est-ce que vous favorisez le partage entre vos clients ?
Écoutez, c'est une très bonne question. Pendant un an et demi, c'est un sujet qu'on n'a pas bien traité pendant la partie Covid, parce que la meilleure manière de le faire, je crois, c'est de se rencontrer et de se parler. Et donc, on avait mis en place des clubs utilisateurs trimestriels avant le Covid, qu'on a repris là en novembre. Et c'était canon, on a eu 10% de nos clients qui étaient présents sur un sujet d'actu qui était comment présenter les résultats de mon année à mon boss. Et je pense que à chacun de ces échanges, les gens repartent avec de la matière très opérationnelle, mais surtout avec des contacts, en comprenant comment les autres font, c'est très enrichissant.
Et est-ce que vous avez eu des retours de personnes présentes qui ont présenté leurs résultats de fin d'année à leur boss et qui ont été
augmentés? Pas encore. En revanche, sur place, il y a un certain nombre qui nous ont dit « mais en fait, moi, je ne suis pas du tout challengée d'un point de vue, variable ». Et donc, j'ai pas d'objectif, ce qui est assez surprenant, en fait, surtout en marketing. Alors, ça l'est moins que pour des sales, j'imagine. Mais donc, il y en a beaucoup qui étaient intéressés par la manière de s'auto-challenger et donc de se fixer des objectifs pour l'année suivante.
Ouais, et donc, en faisant parler vos clients, vous identifiez des sujets qui vont au-delà de Pledzi, sur lesquels ils seraient intéressés d'être challengés et d'être nourris. Et donc, j'imagine que derrière la boucle, c'est que ces sujets-là peuvent être traités par le marketing.
Eh bien, aujourd'hui, là, à cette heure-ci, a lieu un webinar qui s'appelle Comment présenter les résultats de mon année à mon boss et
ouais,
qui est accessible à tous nos prospects.
Et donc, on parle énormément d'alignement sales-marketing, mais l'alignement customer-success,
ouais,
marketing et customer-success-sales,
ouais,
est tout aussi important.
Tout aussi important. Honnêtement, c'est un sujet sur lequel on a encore une bonne barche à monter. Je considère qu'on n'est pas,
ouais,
encore au top, on n'a pas de leçons à donner. Mais chaque jour, on essaie d'imaginer comment faire mieux. Ouais.
Ok. En termes de bonnes pratiques qu'on a décidé de partager ensemble aujourd'hui, on va parler de symétrie des attentions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la symétrie des attentions ?
Alors, c'est un terme, honnêtement, j'ai aucune idée de qui l'a développé. Je pense que je l'ai lu il y a très longtemps. Mais le principe de la symétrie des attentions, c'est que ce que tu fais en externe correspond à ce que tu fais en interne. Donc, la manière dont tu traites tes clients doit être équivalente à la manière dont tu traites tes collaborateurs. Et en partant de cette idée-là, on espère qu'on traite très, très, très bien ses clients et donc très, très, très bien ses collaborateurs.
Et comment, à quel moment vous vous êtes dit notre expérience client et donc la valeur qu'on apporte à nos clients, l'expérience qu'on leur fait vivre, passe par notre expérience collaborateur ? C'était un souhait à la création de Pledzi ?
Ah non, mais ce n'est pas un truc qu'on s'est dit. Enfin, vraiment, je pense que ce n'est pas quelque chose qui se décrète. C'est quelque chose qui est une évidence parce que, je le disais au démarrage, on partage les mêmes valeurs et on est hyper heureux et satisfaits de vivre ensemble et ça se ressent. Et ensuite, il y a quelques règles, mais qui sont des règles de base dont on avait discuté. On parle correctement de nos clients parce que ce sont des gens chouettes et parce que même s'il y a des jours où ça ne va pas, ça reste face à nous des clients. Et donc, il est hyper important de s'adresser à eux en interne comme en externe en ayant tout le respect nécessaire.
Donc, chez Pledzi, il n'y a pas de commercial ou de customer success qui raccroche son téléphone en disant « Ah oh là là, ce client, il comprend vraiment rien. » Ça n'existe pas.
Il comprend rien, c'est pas factuel. Hein. Il n'a pas compris ce que je lui ai dit. En revanche, il n'y a personne qui raccroche en insultant son client ou en estimant que c'est un idiot. Il raccroche en se disant « J'ai pas encore réussi à trouver la bonne manière de lui expliquer les choses. » Et il se remet en cause.
Et comment vous transmettez cet ADN, parce que c'est effectivement, ça semble évident quand on l'entend. Pour autant, il y a encore beaucoup d'entreprises où quand on traîne un peu sur les plateaux où on entend les gens raccrocher de leur téléphone, il peut y avoir des mots pas toujours gentils fait en feedback des calls. Comment est-ce que vous transmettez ça aux nouvelles recrues pour être sûr que tout le monde est dans la même dynamique?
En réalité, je pense que d'abord, c'est quelque chose qui est très inhérent à la manière dont on vit au sein de chez Plaidi. C'est comme, je vais donner un autre exemple, mais en famille, si tu dis jamais de gros mots devant tes enfants, naturellement, ils auront moins tendance à en dire, même s'ils entendent beaucoup à l'école. Ils savent qu'à la maison, c'est pas un endroit où on dit des gros mots. Et bien finalement, au sein d'une entreprise, c'est pareil. Quand on n'entend jamais ses boss parler de manière désagréable de ses clients ou des collaborateurs, on se permet pas non plus d'avoir ce genre d'attitude. Donc, première chose, c'est d'abord ce qui se vit dans la boîte. Ensuite, lorsque les personnes qui sont les plus à même d'avoir des échanges un peu difficiles avec les clients, ce sont ceux qui gèrent la partie support. Parce que ce sont eux qui sont face à des gens qui, effectivement, comprennent pas toujours très bien ce qu'ils leur disent, ont pas le même niveau de maturité. Et donc, c'est pour eux que c'est le plus difficile. Et pour eux, et puis, autour de ça, il y a également une question d'est-ce que je tutoie ou je vois mon client? Sur quel ton je lui parle, il y a des gens qui n'ont pas du tout envie d'être considérés comme des copains et puis d'autres qui ont envie au contraire de créer la relation. Donc là pour le coup on a mis quelques guidelines et surtout lorsque les gens arrivent on est à leur côté, ils font des calls avec nous, on fait des calls avec eux, on en débrief ensuite et il y a assez peu d'écrits, c'est beaucoup dans la transmission autour du temps passé ensemble.
Et combien de temps vous passez avec chaque client?
C'est une bonne question. En onboarding, en moyenne, on passe une quinzaine d'heures avec chacun de nos clients. Ensuite, trimestriellement, on se fixe de passer au moins une heure avec chacun d'entre eux. En réalité, certains clients qu'on connaît depuis très longtemps, ça va être à peu près ces horaires-là. Et puis ceux qui démarrent, qui ont plus de questions, qui ont besoin d'être accompagnés, qui n'ont pas les résultats qu'ils souhaitent ou au contraire qui ont ces résultats-là et qui veulent aller plus loin, eux, on va passer 5-6 heures de plus facilement par an.
Et comment ça se passe? C'est les clients qui sont demandeurs ou est-ce que c'est vous qui imposez ces temps d'échange?
À l'heure actuelle, c'est plutôt nous qui imposons. Les customer success doivent avoir un échange avec leurs clients trimestriel, qui doit leur permettre d'identifier si tout se passe bien d'un point de vue stratégique, mais également si l'environnement de leur interlocuteur est toujours propice à utiliser Plaidi. On a identifié les raisons du churn, qui sont des raisons hyper classiques que tu retrouveras partout. Il y a notamment le départ de collaborateurs, l'évolution d'une boîte, etc. Donc l'enjeu d'un customer success, il est à la fois de donner de la valeur à son client pendant cette heure d'échange, mais également de suivre un certain nombre de points clés et s'assurer que le renouvellement pourra se faire à terme.
C'est un point moi qui m'intéresse particulièrement parce que en échangeant avec pas mal d'entreprises B2B dans des stades similaires à Plaidi, on se rend compte que dans l'équipe Customer Success, un des points de douleur ou un des points compliqués, c'est les clients qui se transforment en fantômes, le ghosting.
Ouais.
Donc le Customer Success sait qu'il ou elle peut apporter de la valeur en appelant le client, en prenant une heure avec lui, mais le client ne répond jamais, ne choisit jamais de créneau. Est-ce que ça, vous l'avez aussi ou
Bien
vous
sûr.
Avez trouvé la formule magique?
On n'a pas de formule magique. En revanche, un des points clés, maintenant, quand les CS me disent « ils me ghostent », c'est je leur demande d'analyser. Pour quelles raisons? Et très souvent, en fait, on sait pourquoi ils nous ghostent. Mais c'est plus facile d'invoquer le symptôme plutôt que d'aller fouiller la cause. Un client, il va nous ghoster parce que à l'heure actuelle, il a une refonte en interne. Et en fait, on en a entendu parler. On sait qu'il travaille sur son site internet ou autre. Alors, il l'a dit lors des précédents échanges. Ou il ghoste parce que il y a une évolution. Ils se font racheter ou autre. Tout ça sont des choses qu'on peut voir et percevoir. Et donc, il n'y a pas de formule magique. En revanche, je trouve que on a une très mauvaise tendance. C'est d'être très passif. J'ai envoyé un mail, mais j'ai pas contacté mon client. Alors, c'est pas un mail qui contacte le client. Et en fait, il faut appeler. Moi, ce que je conseille, c'est d'appeler sans laisser de message. Tout le monde rappelle quelqu'un qui laisse pas de message pour savoir qui se cache derrière. Rajouter la personne sur LinkedIn aussi, échanger sur LinkedIn. Les gens sont plus réactifs sur LinkedIn parce qu'en fait, simple, on voit que le message a été lu. Donc forcément, ça appelle à une réponse. Donc, analysez d'abord la raison pour laquelle la personne ne vous ghoste et ensuite cherchez à le contacter par d'autres moyens plutôt que de dire il y a un mail qui est parti.
Donc, c'est faire du multicanal en customer success.
Ouais. Mais surtout en ayant bien compris pourquoi, pour adresser de la bonne manière la personne qui part, enfin qui ghost.
Et si on revient sur la culture interne, donc dans la symétrie de l'attention, la culture interne est clé pour ensuite proposer une culture client, enfin mettre en avant ses clients et les accompagner pour le mieux. Est-ce qu'il y a des actions concrètes que vous mettez en place en interne, au-delà de la culture des valeurs, qui pourraient être reprises par d'autres entreprises ?
Chez nous, on a un onboarding collaborateur comme on a un onboarding client. L'onboarding collaborateur, ça va être une demi-journée gérée par notre RH et qui va être à la fois autour des valeurs de l'entreprise. Et par valeur, on va pas taper des mots bienveillance, etc. On va plutôt être autour des manières d'être. Chez Pledi, un de nos mantras, c'est « Be like my giver ». Donc, essaye de faire les choses intelligemment, essaye de tenter et si ça marche, on essaiera de l'industrialiser, on donnera les moyens d'eux. Mais d'abord, tu tentes, tu vois si ça peut fonctionner. Un autre enjeu, ça va être également de permettre aux collaborateurs de s'intégrer le mieux possible. Et pour ça, il va avoir un buddy. Et ce buddy, il va échanger avec lui au bout de 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui n'est pas dans ton équipe et qui va te donner tous les petits trucs, qui va t'emmener déjeuner la première fois, qui va te permettre d'échanger avec d'autres collaborateurs. En gros, quelqu'un qui va t'aider à t'intégrer. Ça, côté client, alors j'ai pas forcément une symétrie parfaite, mais côté client, notre onboarding suivi d'un échange trimestriel avec nos CS, ça va être son reflet. En interne.
Donc, le customer success, c'est le buddy du client.
Ouais.
Ouais.
Ça, alors, les marketeurs, ils nous appellent l'extension marketing de votre équipe marketing.
Ok.
Ce qui est à double tranchant, parce que parfois les gens le prennent au mot. Ouais. Et dans ces cas-là, ça met une grosse pression à l'équipe. Mais ouais. Ils gèrent vachement bien.
Donc, tous les customer success chez Pledi sont aussi des marketeurs ?
Non.
Non.
Non. Et c'est une grosse question autour du recrutement. Est-ce qu'il vaut mieux recruter quelqu'un qui soit excellent en customer success et lui inculquer les aspects marketing ? Ou est-ce qu'il vaut mieux recruter quelqu'un qui maîtrise très bien le sujet marketing et donc qui peut facilement échanger avec un marketeur et lui apprendre la négociation, les échanges, la régularité, la gestion d'un timing, etc. C'est une vraie question. À l'heure actuelle, on ne l'a pas définitivement tranché. Mais pour le moment, nos premiers customer success étaient des marketeurs. Et maintenant, on est plutôt sur des customer success à qui on apporte la formation marketing. On va voir si ça marche.
Ben j'espère. J'espère que ça va marcher. On va passer maintenant de l'autre côté du miroir et ce qui est assez marrant. Donc, on t'a demandé de donner en exemple une expérience client que toi, tu as vécue et qui t'a profondément marqué. Et alors qu'on parle beaucoup d'accompagnement, de buddy, d'expérience humaine, tu as choisi un exemple où l'expérience était très bonne parce que justement, elle devenait totalement automatisée et sans friction, sans besoin de parler à des humains. Est-ce que tu peux m'en dire plus ?
Alors, ce qui est drôle, c'est qu'on a vécu la même expérience, toi et moi. Il y a 2 ou 3 ans, j'ai perdu ma carte bleue. J'étais dans une banque traditionnelle et pendant 3 semaines, je me suis retrouvée sans carte bleue, sans échange, sans possibilité de payer mon pass Navigo, sans possibilité de gérer ma vie quotidienne, en fait. Et du coup, pendant cette période-là, j'ai cherché une autre banque et je suis arrivée chez Boursorama. Et chez Boursorama, ma vie a changé. C'est-à-dire qu'en une demi-journée, j'étais complètement intégrée à Boursorama. Tous mes comptes étaient intégrés à Boursorama. Tout était simple. Mes virements se font en 3 minutes. Enfin, c'est génial. Donc ouais, ma vie a changé suite à une mauvaise expérience avec ma banque traditionnelle.
Et le problème avec la banque traditionnelle sur ces 3 semaines sans carte bleue était lié à une friction et au fait que le seul moyen... on connaît tous les banques traditionnelles, même s'il y en a certaines qu'on aime beaucoup. On a perdu sa carte bleue, on doit appeler son conseiller qui n'est disponible qu'entre midi et 15h30 le jeudi, mettons.
Ouais.
Et donc, ça crée de la friction parce qu'il n'y a pas de disponibilité. Et ce problème, côté Boursorama, a été résolu par un produit, vraiment de la tech. Et tout à l'heure, dans l'onboarding, quand on a parlé de l'onboarding chez Pledi, tu m'as dit que dans tes onboarders, il y avait notamment une personne qui avait un ADN très produit.
Ouais.
Comment on fait le lien entre l'expérience humaine et l'expérience produit pour que les deux fonctionnent ensemble ?
On commence par se calquer d'abord sur les besoins qu'ont nos chers humains pour pouvoir apporter la meilleure, pour pouvoir faire le pendant dans la partie produit. Tu vois, typiquement, on fait depuis un an et demi un questionnaire à l'issue de chacun des onboardings pour savoir ce que nos clients attendent, s'ils sont satisfaits ou non. Et une plus le temps passe, plus ils nous disent qu'ils voudraient, eux, choisir le rythme et non pas suivre le rythme qu'on leur impose. Et donc, c'est typiquement dans cette optique-là qu'on est en train de créer ce nouvel onboarding autour d'un site internet qui permettra à chacun d'aller à sa vitesse et de nous contacter et de booker des échanges avec nous, peut-être deux fois par semaine au lieu d'une fois toutes les deux semaines.
Ouais, donc le client devient maître de son propre timing, ouais. Et en fonction de sa maturité.
Exactement.
Comment on pourrait retranscrire ça à l'expérience d'une carte bancaire perdue ?
Écoute, moi, ce que je peux te raconter, c'est que ma carte bancaire perdue, ça a été donc 3 semaines de galère, mais ça a été surtout 3 semaines en fait de galère à un moment où l'entreprise aurait eu la possibilité de me transformer en client extrêmement satisfait s'ils avaient eu un simple appel téléphonique avec une explication du temps qui était nécessaire pour refaire cette carte. Et en fait, j'avais juste besoin d'être rassurée. Et à ce moment-là, c'est une période où on est quand même assez angoissé, plus de carte bancaire. On peut plus vivre sans carte bancaire. Et Boursorama, de ce point de vue-là, a été génial parce que non seulement j'ai reçu ma carte dans les 3 ou 4 jours, mais avec une explication, un onboarding qui était extrêmement simple. Tout s'est fait à partir de mon téléphone portable. Ils ont été récupérés toutes les données eux-mêmes à droite et à gauche avec 2 autorisations de ma part. Enfin, c'était honnêtement, j'ai eu l'impression de rentrer dans le monde du futur.
Eh ben, espérons que Boursorama reste le futur bancaire. En tout cas, j'ai vécu la même expérience, je peux le partager. Et comme Gabriel, je suis passée à Boursorama. Donc c'est un podcast pub qui n'est pas sponsorisé par Boursorama. Mais en tout cas, nous sommes deux à être très satisfaites. Et on arrive déjà à la dernière partie de ce podcast qui s'appelle les questions flash. L'idée, c'est que tu répondes à la vitesse de l'éclair aux quelques questions qu'on va te poser. Du tac au tac, ou autant que possible. Première question, l'outil magique dont tu ne pourrais plus te passer dans la vie pro ?
Notre outil de suivi client.
Tu en es 100% satisfaite ?
Non, pas du tout. Mais n'empêche que sans lui, je ne sais plus comment suivre mes clients et comment tirer de la stat.
C'est quoi pour toi le plus gros flop ou la plus grosse erreur que vous ayez faite depuis ton arrivée chez Pledi ?
Je suis désolée parce que le tac au tac là. la plus grosse erreur qu'on ait faite, je l'ai, mais c'était pas un flop finalement. La plus grosse erreur, c'est qu'on a supprimé l'ensemble de notre base client. ça faisait 18 mois que j'étais là. Mon CTO m'a appelé en me disant écoute, je crois qu'on a fait une bêtise, on a appuyé sur un mauvais bouton. Et l'ensemble de la base client a disparu. Et ils ont bossé jour et nuit pendant 24 heures. Et ils ont récupéré l'ensemble de la base client. Et on avait 60 clients à l'époque. Ils sont tous restés. Ils nous ont tous encouragés. Et il n'y en a qu'un qui nous a dit que vraiment, c'était gonflé de notre part. Et il avait raison. Mais finalement, je pense qu'on a créé beaucoup de liens parce qu'on a été extrêmement transparents. On leur a tout dit. Et on a surtout retrouvé toute leur base de données 24 heures plus tard.
Et donc, cette crise, si vous en retiriez un enseignement, c'est la transparence ?
Ouais. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de culture. Je pense que la transparence, c'est essentiel. En interne comme en externe. Là, on est dans une optique de levée de fonds, ce qui avait déjà été le cas il y a 2 ou 3 ans. Et Charles et Renaud, qui sont donc les deux fondateurs de Pledi, sont en train de nous débriefer de cette levée, de la manière dont ça se passe. Ils nous font un récap régulier et ça donne à chacun l'envie de se défoncer pour que ça marche le mieux possible.
Si je te donnais un budget illimité pour ton équipe, qu'est-ce que t'en ferais ?
D'abord, je pense que je commencerais par augmenter tout le monde. Tout le monde se donne à fond et je pense qu'il y a toujours cette frustration de vouloir faire mieux et de pas avoir forcément les moyens. Et surtout, je pense que je leur donnerai une carte bleue pour qu'ils chouchoutent leurs clients les uns les autres.
En leur faisant des cadeaux ?
Ouais, par exemple.
J'aime beaucoup le sujet cadeaux.
Non mais sérieusement, je pense que chouchouter ses clients, là on commence à les réinviter à déjeuner, c'est génial. Ça crée du lien, on apprend plein de choses, puis on a juste besoin de parler à nos clients et pas parler dans un cadre derrière un ordinateur, un cadre hyper normé. Donc ouais, je pense qu'on essaiera de passer du temps de qualité avec nos clients.
Ça donne envie d'être client Pledi. Hein. C'est quoi le pire défaut à avoir quand on fait un métier comme le tien ?
Être bordélique. C'est impossible, tu peux pas suivre un client si t'as pas une notion du timing, si tu sais pas boucler un projet, revenir vers la personne dans les temps. Non, ça c'est rédhibitoire.
Et je t'ai parlé de ta meilleure expérience, on a parlé de ta meilleure expérience en tant que cliente. Chez Jeudi Merci, on aime beaucoup les cadeaux. Si on parle d'expérience cadeau, c'est quoi le meilleur cadeau que tu n'aies jamais reçu ?
De la part d'un client ?
De la part d'un client ou de la famille, d'amis. C'est quoi le cadeau qui t'a le plus marqué ?
je crois que mon mari m'a offert un vélo. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh. Et en fait, je trouvais que c'est génial. Mais c'était il y a 5 ans. Et en fait, ça a changé ma vie. Ça m'a permis de gagner d'aller à mon rythme, de plus être au rythme des Parisiens. Et puis, j'ai 3 enfants. Et donc, ça m'a permis aussi de pouvoir me balader avec mes enfants dans Paris. C'était génial.
Ouais, moi, je suis grande adepte du vélo aussi. On a beaucoup à partager, peut-être autour d'un café. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. En tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu partager ce moment avec toi.
Plaisir partagé.
Et je pense qu'il y a énormément d'enseignements à tirer de cet épisode pour toutes les personnes qui montent une équipe Customer Success, qui se posent des questions sur leur culture interne, qui veulent mettre en avant le client dans leur process. Et donc c'est à suivre. Si nos auditeurs veulent te contacter, comment
LinkedIn.
Ils peuvent le faire ? LinkedIn. Très bien. Bah, merci Gabriel.
Merci beaucoup à toi Léonie. À très bientôt.